à voix nue. Cette semaine, Sylvain Bourmont s'entretient avec Pierre Birnbaum. Ce soir, antisémitisme et judaïsme en France.
Dans le premier volet de cette série, Pierre Birnbaum, vous avez rappelé quelque chose de fort peu connu. Le fait que, dans l'immédiate après-guerre, il y ait des manifestations d'antisémitisme dans les rues à Paris. L'antisémitisme, vous allez nous dire quelle place il a occupé dans votre vie, après la guerre, comme enfant. On a l'impression que ces questions n'étaient pas tellement à l'ordre du jour et vous vous êtes mis à travailler. On évoquait hier Le Peuple et les Gros, et à partir de ce livre, vous avez creusé cet axe de recherche avec de nombreux travaux. Mais c'est un choix que vous avez opéré à un moment au début des années 80, où vous sollicite pour que vous veniez éclairer de vos travaux antérieurs le parcours de Pierre Mendès France. Et on vous demande de venir parler de Pierre Mendès France comme un serviteur de l'État, puisque vous aviez travaillé sur les serviteurs de l'État. Et vous, vous dites, mais moi j'aimerais parler de la manière dont l'antisémitisme a pris pour cible Pierre Mendès France. Parce qu'il y avait peu de choses sur cette question. Et vous menez un travail d'enquête à partir des archives sur cette question. Mais ça ne va pas être aussi simple que ça de choisir votre sujet. On ne va pas tout à fait vous laisser faire, Pierre Birnbaum.
Vous faites allusion à un épisode qui en effet illustre un peu mon malaise et mon changement peut-être, puisque le « on » dont vous parlez, c'était René Raymond, Pierre Azéma, qui me propose en effet dans ce colloque sur Mendès France, faire un papier sur l'État. Mendès France comme chef d'État, comme homme d'État.
On est en 1984.
Je vais rédiger donc un texte sur Mendès France, dans son rapport au judaïsme, la manière dont il a été perçu comme juif à partir des archives locales, le refus de Mendès France par les bouilleurs de cru. Ce texte ne va pas vraiment être discuté pendant le colloque. Il sera néanmoins édité dans l'ouvrage sur Mendès France. Mais on voit bien qu'il y avait une grande réticence dans le monde universitaire à évoquer ces questions-là, entre guillemets, et que la question de l'être juif et de l'antisémitisme n'a pas vraiment sa place légitime dans l'espace public, mais même, je dirais, à l'université. Je suis confronté à cette difficulté que je ressens assez brutalement par la négation qui m'est faite. Et cet exemple est intéressant puisqu'on a à la fois l'État, un homme d'État, donc on va retrouver ce lien entre les Juifs et l'État qui est particulier à la société française, puisque je construis là ce modèle des Juifs d'État, c'est-à-dire je montre comment depuis le 19e siècle, par la méritocratie républicaine, à la différence des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Espagne, de toutes les sociétés du monde, les Juifs entrent dans l'État et deviennent préfets, généraux, juges à la cour de cassation, aux cours d'appel, et que l'affaire Dreyfus elle-même n'est pas compréhensible sans la référence à la France. Il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus dans aucune société du monde, puisqu'il n'y a qu'en France qu'un Juif devient d'abord polytechnicien et puis il est nommé jusqu'à l'état-major de l'armée. Donc l'idée même qu'une affaire Dreyfus puisse exister en dehors de la France est impensable. Donc on voit bien qu'il y a un lien consubstantiel entre les Juifs et la France, entre la méritocratie à la française de laisser cet état fort et la manière dont cette minorité peut se hisser dans l'appareil d'État. Et puis il y a, en revanche, une réaction à ce lien que l'on va retrouver avec Mendès France. Donc on a les deux en même temps. Ce que j'ai proposé d'appeler cette réaction l'antisémitisme politique. Donc là, je fais œuvre peut-être d'innovation, c'est-à-dire que on constate à travers le monde un antisémitisme économique, un antisémitisme racial, un antisémitisme religieux. Les méchants juifs ont tué le Christ, les méchants juifs avec leurs grands cigares nous dominent, les méchants juifs ont un corps qui n'est pas le même. Donc différentes formes d'antisémitisme. Mais ce n'est qu'en France, je pense, en tout cas c'est au fond la logique de ma théorie de l'État, ce n'est qu'en France que l'on invente l'antisémitisme proprement politique. Il y a une sorte de logique dans cette réflexion. Plus l'État est fort, plus il s'ouvre aux minorités sur une base méritocratique universaliste, davantage il s'ouvre, par exemple, aux citoyens juifs, et davantage les juifs en viennent à incarner, et c'est Drumont qui va le dire le premier, l'État lui-même. Ça va être le mythe de la République juive, où on voit, au fond, à partir du fait qu'il y a quelques préfets juifs, il y a quelques hommes politiques juifs qui sont entrés dans l'appareil d'État selon la logique de cet État fort, alors évidemment, Drumont va construire une mythologie incendiaire inimaginable à travers un brûlot inimaginable, la France juive, et je dirais presque plus violent que Goebbels, que Göring. C'est d'une violence extrême, et le journal La Libre Parole qu'il va créer, à la une de La Libre Parole, figure la France aux Français et des dessins, des caricatures que Stürmer en Allemagne. On peut presque imaginer que c'est infiniment plus violent. C'est-à-dire, l'antisémitisme politique est à la mesure de l'exceptionnalisme français qui permet aux Juifs d'entrer dans l'État. Donc, à travers cet exemple de Mendès France sur lequel vous revenez, je retrouve les deux axes de mon travail, c'est-à-dire la dimension de l'État et des hauts fonctionnaires et de l'État à la française qui permet, qui donne aux hauts fonctionnaires ce rôle prédominant et qui permet aux minorités d'entrer dans l'appareil d'État. Et puis, je retrouve la réaction, c'est-à-dire la mythologie qui apparaissait déjà dans Le Peuple et les Gros, qui est au fond de, au lieu de voir l'État comme un lieu spécifique ouvert à tous ses citoyens, qu'ils soient juifs ou pas, on ne voit même plus l'État, on ne voit plus que les gros, qui sont alors les juifs. Donc on a les deux axes qui éclairent au fond ces ouvrages que j'ai pu tenter d'écrire à travers ces 10 ou 20 dernières années, et qui permettent d'appréhender ces deux réalités totalement contradictoires, mais en instaurant une logique entre elles.
Mais à la faveur de cette expérience, de ce colloque, ce que vous découvrez aussi, d'une certaine façon, Pierre Birnbaum, c'est que ce colloque a lieu dans une école que vous connaissez bien, où vous avez commencé vos études, l'Institut d'études politiques. Il est organisé par ces instances de cette discipline. Et vous vous rendez compte d'une difficulté à parler de ça. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que vous allez vous rendre compte plus tard, en travaillant sur une figure tutélaire de cette institution, ou de ces institutions, André Siegfried, à quel point cet antisémitisme a perduré dans les années d'après-guerre, non seulement dans les rues de Paris, mais là aussi au cœur de l'école qui forme à la haute fonction publique, à l'État, et que vous allez exhumer des textes d'André Siegfried qui sont proprement hallucinant d'antisémitisme postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Ce que Zev Sternel aura aussi l'occasion de montrer. Mais là, vous allez participer d'une forme de prise de conscience de quelque chose qui était complètement caché, masqué. Et tout ça va s'opérer dans les années 80, à un moment aussi où, de façon plus générale, le pays va prendre conscience de ce phénomène.
Le moment Siegfried est un moment très pénible, puisque Siegfried est la figure la plus révérée de notre discipline. Et je ne sais pas comment les choses se sont engagées, mais j'ai ma petite idée. Au fond, lorsque je préparais ce livre sur les fous de la République, j'avais trouvé dans des archives une lettre d'un conseiller d'État, donc on est bien dans cette logique, Paul Grunebaum-Ballin, qui écrit à Siegfried en 1941, une lettre totalement inattendue où il dénonce la manière dont André Siegfried, à la une du Temps, du grand journal Le Temps, en 1941, Siegfried écrit un texte incendiaire sur le fait que les Juifs, comme un palimpseste, restent encore Juifs au bout de plusieurs générations. On est quelques mois après le statut des Juifs, d'octobre 40. Donc le texte de Siegfried, à la une du Temps, légitime le statut des Juifs, et Paul Grunebaum-Ballin, qui a tenu la plume de la loi de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, écrit une lettre bouleversante. Il se voit atteint dans sa propre dignité de haut fonctionnaire, et Siegfried, à mon sens, ne lui répond pas, mais il va maintenir cette attitude extrêmement hostile aux Juifs.
Mais là,
finalement,
c'est l'État français, on est sous l'occupation, etc. Oui. Il va maintenir ça après, sous la 4ème République.
Voilà. J'ai trouvé, par exemple, dans ses archives à Sciences Po aussi, en 1953, André Siegfried, on est en 53, donc, André Siegfried publie un livre sur les États-Unis, Charmant Colin, donc on est les presses universitaires, où il montre comment aux États-Unis les Juifs se comportent très mal dans les hôtels, ils ont beaucoup d'argent, tout le monde fuit dès qu'ils arrivent. J'ai trouvé la lettre de la traductrice de ce livre d'André Siegfried, qui lui écrit une lettre bouleversante et lui dit « Maître, je suis très honoré de traduire votre livre, mais croyez-vous vraiment, savez-vous vraiment, comment pouvez-vous prouver vraiment que les Juifs aux États-Unis ont un comportement aussi scandaleux que véritablement l'ordre public en est troublé ?» Et Siegfried lui répond, donc j'ai trouvé toute la correspondance. Il lui répond « Barrès l'avait déjà dit ». Et donc j'ai trouvé la lettre de réponse de la traductrice qui lui dit « Maître, quelle que soit l'admiration que j'ai à votre égard, je ne pourrai pas traduire votre livre si vous maintenez ces propos. » Or, il se trouve que cette personne qui traduit le livre est la femme de Vercors. Donc on a là quelque chose, une rencontre entre des itinéraires politiques bouleversants. Et ne le dites pas, mais je le dis en le murmurant à peine dans ce micro, pour moi, ça reste un trouble de me rendre encore maintenant dans la salle André Siegfried à Sciences Po, qui n'a pas été débaptisée, parce que cet auteur, qui est un grand auteur du point de vue de l'interprétation des tableaux politiques de la France de l'Ouest, mais même quand on regarde ce livre, il est chargé de clichés sur l'ethnie, sur quasiment la race, l'ethnie. Il est chargé de clichés, d'images toutes faites sur le déterminisme du terroir.
On est là dans l'anthropométrie.
Ah bon, on est là dans la pire dimension qui parcourt l'histoire française de la contre-révolution, attachée à la terre, attachée aux racines.
Et on est dans les antilumières, je citais le nom de Zef Sternel tout à l'heure. Est-ce que cette tradition-là, c'est celle-là qui perdure jusque dans les années 50, jusque peut-être aujourd'hui, Pierre Birnbaum?
Il y a une partie d'antilumières qui traverse la société française, même si, vous le savez, les Lumières, elles aussi, étaient souvent peu tolérantes et bienveillantes à l'égard de l'histoire juive. Mais il y a une partie des anti-Lumières qui traverse cette société jusqu'au plus profond du peuple et de ses élites. On le voit chez les grands écrivains et parmi les plus grands, mais on en trouve un grand nombre de constats dans des événements historiques permanents, dans les mobilisations antisémites pendant l'affaire Dreyfus, où on voit des centaines de milliers de personnes qui crient mort aux Juifs. On retrouvera ça à différents moments de l'histoire française, dans les années 30, quand en effet, dans les rues de Paris, des foules énormes lancent des slogans d'un antisémitisme délirant. C'est-à-dire, l'antisémitisme a un accueil, finalement, assez immense, au plus profond de la société française. Et les Lumières ne parviennent pas à freiner le poids des préjugés. J'ai publié une fois un livre sur une histoire de meurtre rituel. Nous sommes en plein siècle des Lumières. Ça s'intitule « Une affaire de meurtre rituel au siècle des Lumières ». Et en plein siècle des Lumières, on s'en prend à un juif accusé d'avoir tuer un petit garçon ou une petite fille, je ne sais plus, dans la forêt, pour prendre son sang, pour préparer la matza peu avant Pessah. Donc, cet homme qui est totalement innocent va être torturé et va être brûlé. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi lui fait dire, une fois que le bonhomme a été torturé et tué, d'autres restent en prison, et l'envoyé du roi leur fait dire « Si vous m'aviez prévenu, je serais intervenu ». C'est-à-dire que si l'État avait pu savoir ce que se tramait au niveau local, au niveau des préjugés de la société, alors l'État serait intervenu pour empêcher l'exécution de ce pauvre petit bonhomme innocent qui était Raphaël Lévy. Et si vous permettez d'ajouter un mot sur ce point, c'est probablement une des choses à laquelle je tiens le plus dans mon travail professionnel, c'est qu'une rue Raphaël Lévy a été créée à Metz, puisque l'ensemble se passe dans la forêt près de Metz, Grétigny, et une rue Raphaël Lévy a été créée, que j'ai inaugurée avec le maire. Et au fond, à travers ce livre, et à partir d'une interrogation de théorie politique, d'avoir pu donner vie, donner corps, au-dedans de l'espace public, à une dimension juive de cet espace public.
Vous basculez dans les années 80, pour le dire vite, sur ces questions, à un moment aussi où, plus généralement, la société française va prendre conscience de ce qui s'est passé, chose qu'elle avait eu tendance un petit peu à refouler depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous voyez les choses, Pierre Birnbaum, entre ce choix personnel, décision de l'acteur que vous faites de travailler sur ces objets, choix qui n'est pas toujours compris par vos collègues, et puis le panorama plus général dans lequel vous faites ça, celui du pays qui se met à penser ces questions de mémoire, à les institutionnaliser aussi.
Il est très difficile de vous répondre ce qui relève du choix et du contexte. Je dirais que c'est presque plus tardif quand même. La société française change...
Un peu plus tard que vous.
Voilà. Et mes collègues n'acceptent pas toujours avec générosité mes nouveaux centres d'intérêt.
On vous explique que c'est un peu périphérique.
Non seulement que c'est un peu périphérique, mais plusieurs de mes collègues m'envoient des lettres chargé d'un message très étrange. Pierre, toi qui peux nous apporter tellement de choses dans notre domaine, reste avec nous. Reste avec nous. C'est-à-dire, ne t'en va pas vers des objets dépourvus d'intérêt et posant des problèmes dont on n'a pas à débattre au sein d'une université qui ne veut pas entendre ces choses-là et qui ne veut pas vraiment toujours les entendre de nos jours. Enfin, il reste, je pense, encore difficile de construire une carrière universitaire en évoquant de tels objets. Alors, comment se fait le basculement? On a toujours du mal à reconstruire cette histoire personnelle, à la fois dans la vie personnelle et probablement aussi avec le vieillissement, l'évolution de son propre parcours intellectuel. En effet, j'ai donné de plus en plus de place à cette interrogation, mais je l'ai prolongée en maintenant cette perspective théorique. Si je prends, par exemple, un ouvrage qui s'appelle « Les deux maisons ». Donc, c'est un livre qui, à partir du constat qu'il y a deux types d'États, comme le disait Tocqueville, entre les États-Unis et la France, je poursuis cette logique que j'avais déjà rencontré dans d'autres ouvrages, pour montrer comment les Juifs aux États-Unis, à la différence des Juifs en France, ont des carrières, des sociabilités, des allégeances radicalement contraires, et que aucun Juif n'entre dans l'État aux États-Unis, alors que tant d'entre eux y entrent en France, qu'ils ont un comportement de micro-société, alors que ce n'est infiniment moins le cas en France, que l'entrée dans l'espace public comme groupe social est parfaitement légitime aux États-Unis, elle ne l'est pas en France. Il y aura même un engagement dans le sionisme aux États-Unis, alors que ça n'est pas le cas en France. Jusque très récemment, les Juifs français rejettent le sionisme parce que ça les coupe de l'État à la française, de cet État fort et d'une citoyenneté exigeante. Donc, on peut maintenir ce même fil directeur pour aborder cette histoire comparative des Juifs dans laquelle je m'engage, en cherchant du matériel pour la nourrir, mais à chaque fois en conservant ce prisme comparatif de la théorie de l'État. Donc les deux dimensions se rejoignent à nouveau, et on les trouve aussi bien à propos de la comparaison entre France ou États-Unis, mais également dans d'autres contextes. Je peux évoquer par exemple un livre sur les prières, par exemple les prières pour l'État, la manière dont les Juifs prient pour l'État en France diffèrent radicalement de la manière dont les Juifs prient pour l'État aux États-Unis, en Angleterre ou en Russie. Et donc, on voit comment, jusque dans ce comportement très intime, en même temps très ritualisé de la prière, les Juifs sont les seuls citoyens français, encore de nos jours, à prier pour l'État. À chaque samedi matin, chaque Shabbat, il y a des prières pour la République et l'État français et la santé des dirigeants de l'État. Donc, on a une allégeance à l'État. On a une reconnaissance, cette dépendance à l'égard de l'État, du rôle exceptionnel d'un État émancipateur, à l'égard duquel on a une position extrêmement de respect, de dette, qui frise parfois un peu la servilité, je dirais aussi, dans la manière dont ces prières de dévotion absolue à l'égard de l'État sont constitués. Bien sûr que les Juifs prient aussi pour les rois anglais, les présidents américains, le tsar, même le tsar. On trouve des prières bouleversantes à chaque fois. Mais elles sont très différentes de celles de la France, qui, à travers lesquelles on voit que l'État est perçu dans sa spécificité à travers ses prières. Donc là encore, vous voyez, ce sont des objets très différents les uns des autres, mais à chaque fois, ils croisent ces deux perspectives. D'une part, la théorie de l'État, de la comparaison des types d'État, et d'autre part, la manière dont certains acteurs, on aurait pu prendre les Berrichons ou les Basques, ou les Bretons peut-être, pour ma part, je me suis intéressé aux Juifs, la manière dont les acteurs de la société engagent des stratégies, des rêves, des demandes, des destins, en fonction des types d'État auxquels ils se trouvent confrontés.
Même quand ils partagent une histoire, une culture, une religion, parce qu'ils se trouvent dans des histoires nationales différentes. Au fond, pour le dire de manière très abstraite, d'un côté, vous considérez l'État comme une variable, et de l'autre, vous prenez les Juifs comme un groupe test.
Ça me paraît parfaitement clair, et vous dites cela avec une scientificité qui me fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir construit une théorie mathématique qui donne sens, qui apporte presque de la vérité à ma démonstration, ce qui n'est probablement pas le cas. On doit pouvoir trouver des variables qui démentent le type de causalité ou de corrélation.
Oui, mais parce qu'il y a toujours une historicité, et je voulais en venir là, parce que si vous parvenez à prolonger ce travail qui est d'abord un travail théorique sur l'État et à en donner des illustrations, c'est parce que vous basculez aussi dans le même temps dans des formes d'enquête différentes qui font de vous progressivement, Pierre Birnbaum, un historien que vous avez au fond toujours d'une certaine façon rêvé d'être.
J'ai rêvé d'être en effet toute ma vie et j'espère l'être devenu un tout petit peu. Je pense que je pourrais prendre l'exemple de mon dernier travail qui porte sur Vichy, où l'on trouve toutes ces dimensions qui sont comme coagulées, puisqu'on a à la fois l'histoire juive et ma propre histoire de juif cachée, d'enfant caché, mais en même temps une réflexion sur l'État. Et le constat que cet État différencié, fort, protecteur, ne me protège pas, ne me protège plus, moi qui suis citoyen français de naissance. Et toute la théorie de l'État que j'ai pu construire de manière comme un héros de l'État, comme de manière en louant l'appareil d'État tel qu'il s'est construit, mais les préfets, le Conseil d'État, je suis un amoureux du Conseil d'État ou des préfets, d'un seul coup, à partir des archives que j'ai retrouvées, je montre que les préfets veulent ma peau, les conseillers d'État veulent ma peau, moi-même, ma peau, c'est-à-dire de petits garçons, et veulent vraiment me mettre dans un train direction Drancy, direction Auschwitz. Donc je trouve cela dans les archives. Donc il y a là une sorte de choc dont je ne suis pas vraiment remis.
Comme si, au fond, l'État avait voulu mettre à l'épreuve la théorie que vous alliez développer quelques semaines même après votre naissance, au fond. C'est vertigineux, rétrospectivement.
C'est vertigineux, rétrospectivement, que de constater qu'en effet, quasiment le jour de ma naissance, on me barre le chemin de l'État et donc on m'empêche a priori de devenir un amoureux de cet État fort. La véritable question qui se pose, c'est ce type de dédifférenciation, de ce type de perte de légitimité, de ce perte de logique de cet État qui fonctionne à de nombreuses reprises, en dépit du colonialisme, en dépit de ses rapports au monde des affaires dans les années 30, en dépit de tas de phénomènes de corruption qui sont bien connus, mais qui fonctionnent néanmoins, qui a cette ambition universaliste et exceptionnelle, en 1940, elle est vraiment remise en cause. Et en 1940, par un coup de baguette magique, mes hauts fonctionnaires que j'admire tant tournent casaque aux idéaux de l'État républicain, de l'universalisme, et ça reste un véritable mystère, et je dirais une véritable inquiétude pour le temps présent, une véritable inquiétude pour les années à venir. Qu'en serait-il demain si cet État républicain, structuré, défenseur du droit, défenseur des libertés publiques, ces hauts fonctionnaires, le conseiller d'État, les juges qui sont protecteurs de nos libertés. Qu'en serait-il si, comme en 1940, ils tournaient casaque, ils abandonnaient comment est-ce imaginable? C'est aussi...
Que l'État puisse dépérir par la tête aussi, parce que ce ne sont pas les paysans qui vous protègent, qui remettent en cause l'État, ce sont les plus grands serviteurs de l'État.
C'est ça, c'est un peu le constat de ce livre, dont j'ai du mal à me remettre moi-même, je dirais comme individu, c'est qu'en effet, c'est l'État veut ma peau et les petites gens me protègent, c'est-à-dire les paysans, les bonnes sœurs, la société. Donc c'est d'un seul coup le basculement de ma théorie au profit de la société et au détriment de l'État. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à construire un livre qui n'emporte pas la théorie avec le constat historique. Et j'ai bricolé une sorte d'interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est comme sanctifiée par le Conseil d'État actuellement. C'est-à-dire que l'État de Vichy n'est plus l'État. Les décisions du Conseil d'État le disent depuis 2-3 ans. L'État de Vichy, même pour le Conseil d'État, n'est plus l'État. Parce qu'il a perdu son mode d'action, il a perdu sa légitimité, il a perdu sa logique.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a besoin de s'appeler l'État, c'est parce qu'il n'est plus l'État. L'État français.
Il est devenu l'État français. Et donc, il n'est plus l'État. Il a expulsé de ses structures les francs-maçons, les communistes, les juifs, les socialistes. Il ne fonctionne plus à la méritocratie, à l'universalisme. Donc, il y a une véritable difficulté de comprendre un État qui est en même temps un État, le même État, puisque la plupart des hauts fonctionnaires restent en place, et néanmoins un État qui n'est plus l'État dans sa logique, puisqu'il a remis en question les formes les plus importantes de la citoyenneté, de l'universalisme. C'est une question qui reste encore un mystère aujourd'hui, et qui, je le disais il y a un instant, nous alerte sur les temps futurs et sur les années à venir dans la société française contemporaine. Est-ce que cet État qui tient encore, et je tiens à le dire, pardonnez-moi de le répéter, est-ce que cet État qui tient encore, quels que soient les phénomènes de corruption, est-ce que cet État pourrait à nouveau ne plus être un État fidèle à sa logique si d'aventure les années noires revues et corrigées à d'autres couleurs se répétaient?
C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue cette leçon de Vichy, pour reprendre le titre de ce dernier livre pour l'instant. Pierre Birnbaum, merci beaucoup.
Merci infiniment.
Fin de cette rencontre de Sylvain Bourmont avec Pierre Birnbaum. Avenue, réalisation Christine Robert, prise de son Julien Girard, attaché de production Daphné Abkral, coordination Sandrine Trainer. Avenue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.